Les Braves Invisibles, une aventure de John Strobbins par José Moselli. Russes, Chinois, Américains, nihilistes, assassins, empoisonneurs, on trouve tout cela dans la fameuse affaire dite des Braves Invisibles. Les Braves Invisibles forment une société de bandits asiatiques, société secrète naturellement, et qui tient sous sa domination, pourrait-on dire, qui terrorise enfin le fameux Chinatown, quartier chinois de San Francisco. En l'occurrence, les Braves Invisibles, sinon leur chef, ne méritèrent pas leur nom. Leur chef fut tellement visible qu'il tomba entre les mains de la police américaine. Tel le juge de la fable, John Strobbins sut profiter des démêlés sino-américains, si l'on peut dire, pour augmenter sa fortune d'une valeur dépassant 100 000 $. Il déploya pour ça sa patience, son ingéniosité accoutumée. L'affaire des Braves Invisibles, d'ailleurs, n'a jamais été bien élucidée par la justice. Elle est, d'abord, très compliquée. Et des personnages qui furent mêlés, ainsi qu'on va le voir, les uns moururent, et les autres comprirent que leur intérêt, bien entendu, était de rester muet. Le silence est d'or. C'est à John Strobbins lui-même, qui n'a pas les mêmes raisons de se taire que les autres protagonistes de cette histoire, que l'on doit enfin de savoir la vérité. Dans une ville cosmopolite comme Frisco, les crimes ne sont pas rares. Rixes, assassinats, cambriolages, commis souvent au milieu d'invraisemblables circonstances, sont choses courantes dans la grande métropole de l'Ouest. Aussi, police, journalistes, publics, sont-ils blasés sur les faits divers les plus effarants. Malgré cela, lorsque, ce matin-là, les journaux de la Reine du Pacifique, ainsi les Américains se plaisent-ils à dénommer San Francisco, publièrent le récit du crime étrange dont venait d'être victime le tenancier d'un restaurant de Chinatown, l'affaire fit-elle quelques sensations en ville. Non pas le meurtre lui-même, mais bien ce qu'on pourrait appeler ses à côté. Voici d'ailleurs l'article du San Francisco Daily News. Un nouvel assassinat vient d'être commis dans Chinatown, sur lequel la police se perd en conjecture. Ce matin, vers 4 heures, un peu avant l'aube, un jeune Japonais, âgé d'une 15aine d'années et vêtu à l'européenne, entrait dans le commissariat de la 21e rue et demandait à être introduit devant le commissaire. Comme ce dernier était absent, le jeune Japonais fut mené devant son secrétaire. Il déclara se nommer Tane Kodomo et être employé comme guide par l'agence Look. En sortant d'un bouge de Chinatown, où il avait accompagné des savants allemands désireux de se documenter sur la ville chinoise, Tane Kodomo avait remarqué que la porte du restaurant du Lotus Bleu était ouverte, bien qu'il n'y eût aucune lumière à l'intérieur de la maison. Apprenons à nos lecteurs que le restaurant du Lotus Bleu, tenu par un vieux chinois du nom de Hong Tian, est un des rares établissements honnêtes de Chinatown. Marié et père de 9 enfants qu'il a envoyés en Chine pour y être éduqué selon les coutumes nationales, Hong Tian est renommé pour sa probité. Depuis 37 ans qu'il tient, ou plutôt qu'il tenait le Lotus Bleu, jamais la police n'avait eu à s'occuper de lui. Quoi qu'il en soit, Tane Kodomo, curieux par profession, eut l'intuition qu'il se passait quelque chose de louche dans la maison du Lotus Bleu. Il pressa le bouton d'une lampe électrique portative dont il était muni et franchit le seuil. Dans la grande salle, qui sert à abriter les consommateurs lorsque le restaurant est ouvert, l'ordre régnait. Tables et escabeaux étaient rangés à leur place. Tane Kodomo, qui connaissait la disposition du restaurant pour y être venu maintes fois avec les étrangers qu'il guidait, passa dans la cuisine qui fait suite à la grande salle. Elle était déserte. Le jeune Japonais, croyant s'être dérangé pour rien, allait se retirer lorsqu'il lui sembla entendre un soupir étouffé. Il dirigea le rayon de sa lampe vers l'endroit d'où venait le bruit, mais ne vit rien. Pourtant, voulant, comme l'on dit, en avoir le cœur net, il ouvrit une porte vitrée donnant sur une courette. Et le spectacle qu'il vit fut si atroce, si étrange, déclara-t-il au secrétaire du commissaire de la 21e rue, qu'il faillit lâcher sa lampe. Au milieu de la courette, Hong Tian gisait, couché sur le ventre, les bras en croix. Autour de son cou, un mince cordon de soie jaune était serré si fort qu'il était entré de près d'un pouce, 2 centimètres environ. La chair du cou était violacée. La natte du vieux chinois avait été tranchée au ras du crâne et traînait près de lui dans la poussière. Comme bien on le pense, Hong Tian était mort. Mais près de lui, un autre homme, chinois aussi, était également étendu. Vivant, celui-là, mais enroulé dans un réseau de cordelettes si serrées qu'il ne pouvait pas faire le moindre mouvement. Un foulard de soie le bâillonnait, mais par suite des mouvements du chinois, il avait un peu glissé, ce qui avait permis aux célestes de pousser l'appel étouffé qu'avait entendu Tane Kodomo. Ce dernier, d'ailleurs, sans demander son reste, s'enfuit et courut tout d'une traite prévenir la police. Sans perdre de temps, le secrétaire du commissariat, accompagné de deux détectives, se rendit aussitôt au Lotus Bleu. Rien n'avait bougé, si ce n'est l'homme ligoté lequel, bien qu'il eût réussi entre-temps à faire glisser son baillon, ne poussait aucun appel. Cette attitude bizarre frappa M. Strange. C'est le nom du secrétaire du commissaire de la 21e rue. Cependant, il donna ordre aussitôt au détective de couper les liens du Chinois. Or, à peine libre, le céleste bouscula un des policiers, étendit l'autre à terre d'un coup de tête dans le ventre et s'élança vers la rue. Malheureusement pour lui, M. Strange, par une habitude professionnelle, avait fait pousser les verrous de la porte du Lotus Bleu. Tandis que le Chinois s'occupait à les tirer, les deux agents, qui s'étaient relevés, le rejoignirent, et après une lutte acharnée, le maîtrisèrent et le ligotèrent. M. Strange, remettant à plus tard l'interrogatoire du céleste, procéda aux constatations d'usage. La maison du Lotus Bleu est une des plus petites de Chinatown. Au-dessus de la salle du restaurant et de la cuisine, qui occupent tout le rez-de-chaussée, l'unique étage se compose de deux chambres en mansarde. Rien n'y avait été dérangé. Le grabat sur lequel couche Hun Tien était intact, démontrant ainsi que, cette nuit-là, le vieux Chinois ne s'était pas couché. Les quelques meubles, fermés à clé, n'avaient pas été fracturés. Seulement un petit hôtel de lac rouge, devant lequel des cierges étaient piqués, était vide. Le Bouddha qui eût dû y trôner ne s'y trouvait pas. Avait-il été emporté par les assassins du vieux Chinois ? M. Strange, avant d'élucider cette question, poursuivit ses investigations. Il visita la cave où rien n'avait été dérangé. Il allait remonter lorsqu'il s'aperçut que les rebords du soupirail aérant la cave étaient crevassés. Visiblement, les malfaiteurs avaient arraché les trois énormes barreaux de fer qui le défendaient et dont la trace se voyait très nette. Or, le soupirail donnait sur la courette, ainsi d'ailleurs que la porte de la cave. Donc, pour arriver au dit soupirail, les assassins devaient d'abord avoir traversé le restaurant. Et s'ils avaient voulu ensuite descendre dans la cave, il leur était beaucoup plus facile de forcer la porte, faite d'un panneau de bois vermoulu, plutôt que de desceller trois gros barreaux de métal encastrés profondément dans la pierre. Disons de suite que bien que M. Strange eût fait aussitôt rechercher les barreaux disparus, il n'en retrouva nulle trace, pas plus d'ailleurs que du Bouddha. Les voleurs assassins devaient les avoir emportés. Mais dans quel but ? M. Strange pensa que le mystérieux Chinois pourrait le renseigner à ce sujet. Il le fit donc transporter au commissariat de la 21e rue et envoya deux détectives prévenir le prosecuting à Tornay. À l'heure qu'il est, les recherches continuent dans la maison du Lotus Bleu. Les nécessités de la mise en page s'opposent à ce que nous attendions plus longtemps les résultats de l'enquête qu'aussitôt prévenus, nous avions confié à deux de nos plus habiles rédacteurs. Disons cependant que l'affaire s'annonce très compliquée et pouvant, d'après ce que nous savons, conduire à d'étranges découvertes. Nous publierons d'autres détails dans notre édition de midi. Contrairement à cette dernière affirmation, l'édition de midi du San Francisco Daily News n'apporta aucun éclaircissement au mystérieux crime de Chinatown. Le Chinois prisonnier, emmené au commissariat, opposa un mutisme obstiné à toutes les questions qui lui furent posées. Le commissaire, croyant que le céleste ne comprenait pas l'anglais, fit venir un interprète chinois. Le prisonnier ne desserra pas davantage les dents. Qui était-il? D'où venait-il? C'est en vain que plus de 100 Chinois convoqués furent invités à identifier le prisonnier. Aucun d'eux ne le reconnut ou ne parut le reconnaître. Quant à l'infortuné Hun Tien, l'autopsie démontra qu'il avait été étranglé vers 1h du matin et sans lutte, car son corps ne portait aucune trace de violence. Les voisins du Lotus Bleu, interrogés, affirmèrent n'avoir rien entendu, réponse à prévoir, étant donné la répugnance des Chinois à déposer contre leurs compatriotes. Et, dans la nuit qui suivit, un douanier découvrit sur la berge orientale de l'île Angel un cadavre apporté par la mer. C'était celui du jeune japonais Tane Kodomo, puni sans doute de s'être mêlé de ce qui ne le regardait pas. Avant d'être jeté à la mer, où il avait été assommé, car il portait un trou large comme une noix à la base du crâne. Bien que les circonstances dans lesquelles avait été découvert l'assassinat de Hun Tien eussent fortement impressionné la curiosité publique, la mort de Tane Kodomo, Le japonais, qui avait averti la police du crime, ne causa qu'un médiocre étonnement. Évidemment, le jeune guide avait été tué par un ami du meurtrier du patron du Lotus Bleu et peut-être par le meurtrier lui-même. Mais dans toute cette histoire, quel avait été le rôle du mystérieux chinois trouvé ligoté auprès du cadavre? C'est là ce que la justice cherchait en vain. L'attitude du chinois, non moins que la disparition inexpliquée des barreaux du soupirail de la cave du Lotus Bleu, et aussi celle du Bouddha, que de nombreux témoins affirment être sans valeur et semblable à ceux qui se vendent dans les innombrables bazars de la cité chinoise, intriguait fortement M. Géraud Zeller, le juge d'instruction chargé d'éclaircir cette affaire. Cependant, après 8 jours, l'instruction n'avait pas avancé d'un pouce. Le 9e jour, un petit incident vint augmenter la perplexité du magistrat. Alors qu'il était dans son cabinet, occupé à compulser les vagues notes de la police relatives à ce qu'on appelait l'affaire du Lotus Bleu, un huissier lui remit une carte de visite ainsi conçue. Dimitri Fomitch, ingénieur, prie instamment M. Géraud Zeller de le recevoir sans délai. Il a une communication très importante à lui faire. M. Géraud Zeller avait l'esprit tellement préoccupé par l'affaire du Lotus Bleu qu'il ne douta pas un instant que l'ingénieur, un ingénieur russe, d'après son nom, ne vint lui apporter une piste intéressante. « Faites entrer, » dit-il. Précédé de l'huissier, un petit homme blond, le visage très doux, yeux bleus brillants derrière un pince-nez, ample barbe d'or, les vêtements élégants, mais élimés et tachés, apparut. Il tenait à la main un chapeau mou de couleur grise. « C'est à monsieur le juge Géraud Zeller à qui j'ai l'honneur de parler ?» demanda-t-il en mauvais anglais et d'une voix zézayante. « Oui. Vous affirmez avoir une communication très importante à me faire ?» fit le magistrat, dont les yeux allaient alternativement de la carte à l'inconnu. « Parlez. Mes instants sont comptés. Tout de suite, monsieur le juge, tout de suite. » Dimitri Fomitch toussa. Il parut hésiter, ce qui n'échappa pas à Géraud Zeller, et reprit. « Comme tout le monde, monsieur le juge, j'ai lu les journaux. J'ai ainsi connu les détails du crime de Chinatown. Les assassins ont, paraît-il, enlevé une statue de Bouddha et les grilles d'un soupirail, n'est-ce pas, monsieur le juge ? Oui. C'est bien cela. Et ce vol est d'autant plus étrange que ces objets n'ont presque aucune valeur. Où voulez-vous en venir ? Oh, à rien, monsieur le juge. Seulement voilà, cette nuit, on m'a dérobé à l'hôtel Windsor où j'habite une paire de candélabres en fonte bronzée, sans valeur non plus. Et je suppose que les voleurs du chinois assassiné et les miens sont les mêmes. Ah ? Et qui vous fait supposer cela ? Interrogea M. Géraud Zeller, qui était la patience même. Mais d'abord la difficulté qu'ont eue dans les deux cas les criminels pour s'approprier les objets convoités. Pour moi, on m'a fait absorber un soporifique, c'est sûr. Et cette nuit, pendant que je dormais, les malfaiteurs, à l'aide de fausses clés, car la serrure de ma porte n'a pas été forcée, se sont introduits dans ma chambre et ont emporté les 2 candélabres. Bien que ces objets n'eussent aucune valeur, ils ne valent pas 10 dollars les 2, j'y tenais énormément, étant donné qu'ils m'avaient été légués par mon ami, par un de mes amis, enfin, cela importe peu à l'affaire et... Mais si, dit doucement le magistrat, sans paraître voir le mouvement de dépit de l'ingénieur russe, comment s'appelait votre ami ? Il s'appelait James Bourtef. Il s'était fait naturaliser anglais. « James Bourtef, très bien. Et alors ? Alors quoi, monsieur le juge ? Je veux dire, continuez. Vous sembliez avoir autre chose à me dire. Ah oui, je voulais vous expliquer, monsieur le juge, que je ne suis à San Francisco que depuis quelques jours, et je n'y connais personne. Aussi, je m'étonne de ce que les voleurs aient été avertis de ma présence ici, de mon adresse et de l'endroit où se trouvaient les candélabres en question, lesquels étaient dans ma malle, enveloppés de linge. Et on ne vous a rien pris d'autre. Rien, monsieur le juge. » Or, dans la poche de mon habit se trouvait un portefeuille contenant près de 300 dollars. Les bandits l'ont ouvert, mais sans rien y prendre. Les bandits, les assassins. Vous semblez si assuré, monsieur, que le vol dont vous êtes victime a été commis par plusieurs personnes. Avez-vous des raisons pour soutenir cette opinion ? Oh non, c'est une manière de parler. Rien de plus, monsieur le juge, s'empressa d'affirmer Dimitri Fomitch. Et vous avez prévenu l'hôtelier de ce qui vous arrivait, naturellement ? Et aussitôt que je me suis aperçu du vol, c'est-à-dire ce matin, en me levant. Mais mon homme, qui paraît être de bonne foi, affirme n'avoir rien vu ni entendu de suspect. Les domestiques qu'il a interrogés non plus. J'ai moi-même questionné mes voisins de chambre, ils ne savent rien. Le mystère qui entoure le vol dont je suis victime, l'habileté du ou des voleurs, le peu de valeur intrinsèque des objets volés, tout cela me fait penser au crime du Lotus Bleu. C'est pourquoi j'ai cru de mon devoir de venir vous relater cette affaire. « Et vous avez bien fait, » fit Géozeller, « bien que je crois qu'il n'y ait que des coïncidences, assez troublantes, il est vrai, dans ces deux affaires. Vous êtes sûr que les deux candélabres qui vous ont été enlevés n'avaient que peu de valeur ? Peut-être, malgré les apparences, présentaient-ils de l'intérêt au point de vue artistique ou simplement curieux ? Oh non, c'était des candélabres de fonte bronzée, de fabrication allemande, et tout ce qu'il y a de plus moderne. Ils avaient dû faire partie d'une garniture de cheminée, mais Dieu sait depuis quand Yvan en avait vendu la pendule. Yvan, je croyais que votre ami s'appelait James Bourteff. Oui, c'est-à-dire qu'il s'appelait James Yvan Bourteff. Depuis qu'il était en Amérique, il se faisait appeler James, mais dans l'intimité, je l'appelais Yvan. Monsieur Géozeller se borna à hocher la tête. Il considéra l'ingénieur russe pendant quelques instants et dit enfin « Vous vous nommez Dimitri Fomitch ?»« Oui, monsieur le juge. Votre âge ?» 31 ans, monsieur le juge. Profession, ingénieur électricien. Où êtes-vous employé ? Je suis venu chercher du travail à San Francisco, monsieur le juge. Où étiez-vous avant d'arriver ici ? Je faisais partie des chantiers de Nikolaïevsk. Pourquoi en êtes-vous parti ? Parce qu'il faisait trop froid. Je suis né en Crimée, monsieur le juge. Je ne peux pas souffrir le froid. Et vous habitez à l'hôtel Windsor ? Oui, monsieur le juge. C'est bon. Je vous prie de vous tenir à la disposition de la justice. J'aurai sans doute d'autres éclaircissements à vous demander. Tout à votre disposition, monsieur le juge. Vous pouvez disposer. Dimitri Fomitch s'inclina respectueusement et sortit en reculant. La porte ne fut pas plutôt refermée sur lui que le magistrat saisit le récepteur du téléphone placé sur son bureau et ayant obtenu la communication avec monsieur James Molescott, le chef de la sûreté de San Francisco, lui fit part de l'entretien qu'il venait d'avoir avec l'ingénieur russe et le pria de faire étroitement surveiller ce dernier. Au fond, le magistrat, bien que certaines contradictions de Dimitri Fomitch l'eussent mis en éveil, n'en agissait ainsi que par acquis de conscience. Malgré les dires du russe, il ne lui apparaissait pas qu'il y eût une corrélation quelconque entre les deux affaires. Aussi, sa surprise fut-elle grande lorsqu'au moment où il se levait de son bureau, 2 heures plus tard, pour quitter le palais de justice, sa besogne du jour terminée, un huissier lui annonça un nouveau visiteur russe, lui aussi, et qui, tout comme Dimitri Fomitch, priait le magistrat de le recevoir d'urgence. Vladimir Tripov disait sa carte de visite sans plus. M. Géozeller, bien qu'il n'eût pas pour habitude de transformer son cabinet en salon de réception, fut tellement intrigué qu'il se rassit et ordonna d'introduire l'individu en question. Vladimir Tripov entra. Il était haut de près de 2 mètres et large en proportion. Une somptueuse pelisse de drap doublé de loutre moulait ses vastes épaules. Un carré de barbe noire terminait son visage mat à l'allure énergique et rusée à la fois. « Monsieur le juge, je vous salue, » dit-il en s'inclinant avec élégance. « Je vous remercie de m'avoir si rapidement reçu. Aussi bien, les déclarations que j'ai à vous faire sont-elles très graves ?»« Je vous écoute, monsieur, » affirma Géozeller poliment. « Je ne puis malheureusement parler devant témoin, » déclara Vladimir Tripov en désignant de la tête le greffier qui, dans un coin, était assis devant sa table à écrire. M. Géozeller hésita une seconde. « Sortez un instant, Smith, » dit-il au greffier. Ce dernier obéit. Les deux hommes restèrent seuls. « Expliquez-vous, » prononça M. Géozeller. « Soyez bref, je suis pressé. » Bien que cet avis fût proféré avec sécheresse, avec rudesse même, Vladimir Tripov ne s'émut aucunement. « J'ai peu de choses à dire, » prononça-t-il, en tirant de sa poche une sorte de carte d'identité, portant sa photographie et son signalement, et qu'il tendit au magistrat. « Ainsi que vous pouvez vous en convaincre, monsieur, » continua-t-il, « je suis attaché à la 3e section de la police impériale russe. Après, je ne vois pas comment cela m'intéresse, » grommela M. Géozeller en rendant la carte au policier. « Oh !» « Je n'ai pas voulu vous intéresser en vous dévoilant mon identité, » parla Vladimir Tripov tranquillement. « L'intérêt est qu'un nihiliste très dangereux, que je surveille depuis plusieurs mois, vient de sortir du palais de justice. Je l'ai vainement poursuivi, mais il m'a échappé au moment où j'allais lui mettre la main au collet. » M. Géozeller resta impassible, il attendait la suite. « Je ne croyais pas ce misérable à San Francisco, autrement j'eusse prévenu la police. N'importe, je compte bien le rattraper. C'est dans ce but, monsieur. » que je me suis permis de venir vous demander l'objet de la visite qu'André Tourqui a eu l'audace de vous faire. Je ne connais pas d'André Tourqui. J'ai seulement accordé une audience à nommer Dimitri Fomitch. Dimitri Fomitch, un ingénieur? Oui, le misérable. Sachez, monsieur le juge, que le vrai Dimitri Fomitch, ingénieur en Nikolaïevsk, a été assassiné il y a 6 mois et dans des conditions particulièrement révoltantes. On a retrouvé son cadavre mutilé, les doigts coupés, les yeux crevés et complètement nu dans une tourbière. Bien que je n'en sois pas sûr, je soupçonne André Tourqui d'être un de ces assassins. Mais pour l'instant, ce n'est pas pour ce crime que je le recherche, mais bien pour divers actes de brigandage à main armée commis au Caucase par lui et ses affiliés. Voici d'ailleurs le mandat d'amener du juge de Tiflis. Transmettez-le au chef de la sûreté, fit M. Géozeller. Je l'ai justement prié de faire surveiller le pseudo Dimitri Fomitch, qui, paraît-il, loge à l'hôtel Windsor. Vladimir Tripov fut un sourire narquois. Il y logeait peut-être, mais à présent, soyez sûr qu'il est loin, monsieur le juge. On le retrouvera, je l'espère. C'est dans ce but que j'ai pris la liberté de venir vous importuner afin de vous demander s'il ne vous plaisait pas de me dire les raisons qui ont amené Tourqui devant vous. Il n'y a aucun mystère à vous le dire. Dimitri Fomitch ou André Tourqui est venu porter plainte contre des inconnus qui, paraît-il, lui ont dérobé avec un grand luxe de précaution une paire de candélabres en fonte, sans aucune valeur intrinsèque, mais auxquels il dit tenir parce qu'ils lui viennent d'un de ses amis décédés, nommé... Attendez, le greffier va nous dire cela. Monsieur Géozeller sonna. Tout aussitôt, le greffier apparut, et sur la demande du magistrat, lut la déposition de Fomitch Tourqui qu'il avait sténographiée. « James Ivan Bourtef, dit-il. « Connais pas, fit Tripov, déçu. « Mais je connais un Ivan Moreuil, qui s'est évadé de Sakhaline il y a un an, et qui pourrait bien être ce James Ivan Bourtef. Quant à l'histoire des candélabres, je vous avoue, monsieur le juge, que je n'y comprends absolument rien, du moins pour l'instant. » Ça m'a tout l'air d'un prétexte imaginé par Tourqui pour vous parler, dans je ne sais quel but. Il prétend que ces voleurs doivent être les mêmes que ceux qui ont opéré au Lotus Bleu. Dans Chinatown? Oui. Tourqui serait un des assassins que je ne serais que médiocrement étonné. On pourrait chercher de ce côté. Quant au mobile qu'il a fait venir vous voir, cela, je l'avoue, je n'y comprends rien. Mais rien. Quelle audace! Ah, c'est un rude homme! Monsieur Géozeller était maintenant... pour le moins aussi intrigué que son interlocuteur. Décidément, loin de s'éclaircir, l'affaire du Lotus Bleu s'embrouillait de plus en plus. « Je ne peux que vous encourager, M. Tripov, dit-il, de joindre vos efforts à ceux de la police californienne. Croyez bien que diligence va être faite pour retrouver ce mystérieux Fomitch. D'autre part, comme il se pourrait que j'ai d'autres renseignements à vous demander, je vous prie de laisser votre adresse afin que... Cosmopolitan Hotel, Hawthorne Square. » J'y suis inscrit sous le nom de Vladimir Tripov, négociant en T. Bonne note en est prise, monsieur. Le policier russe s'inclina, et sans plus dire un mot, prit congé du magistrat et sortit. Tout aussitôt, M. Géozeller se fit donner la communication téléphonique avec M. James Molescott, chef de la sûreté de San Francisco. Allô, allô? C'est vous, M. Molescott? Un deuxième russe m'arrive. C'est un policier, celui-là. Il prétend que... Le magistrat, sans en rien oublier, répéta à M. Molescott les moindres paroles de Vladimir Tripov. Surveille-le aussi, à tout hasard, conclut-il. Il ne m'inspire pas plus confiance que l'autre. Je vais aussitôt envoyer 2 détectives au Cosmopolitan Hotel, fit la voix du chef de la sûreté de San Francisco. Allô, allô? Oui. On me transmet à l'instant le rapport de 2 de mes hommes. Que, conformément à votre demande, je vais envoyer à l'hôtel Windsor pour y prendre des renseignements sur le fameux Dimitri Fomitch. On ne l'y connaît pas, interrogea M. Géozeller qui s'attendait à tout. Si, mais il n'y a plus reparu depuis ce matin. Quant à l'histoire du vol, elle est exacte. Faites surveiller l'hôtel. Oui, mais je crois bien que notre oiseau a vu le mauvais temps et est loin. M. James Molescott ne se trompait pas. Malgré les plus actives recherches, il fut impossible de trouver les traces de Dimitri Fomitch. 2 jours se passèrent encore. L'affaire n'avançait toujours pas. Dans sa cellule, le mystérieux Chinois persistait à ne pas desserrer les dents. Comme aucune autre accusation que celle d'avoir résisté aux agents ne pesait somme toute contre lui, étant donné qu'il n'y avait pas de preuves qu'il eût participé à l'assassinat de Hung Hsien, M. Géozeller commençait à se demander si le Chinois n'était pas fou ou sourd-muet, et envisageait le moment où il devrait le remettre en liberté. La peine dont il était passible pour rébellion aux agents ne dépassant pas le temps qu'il avait déjà séjourné en prison. Lorsqu'un matin, le magistrat trouva dans son courrier cette courte lettre, libellée à l'aide d'une machine à écrire. « Le chinois prisonnier se nomme A. Mao. Dites-lui que l'on a enlevé sa baignoire, et vous verrez la tête qu'il fera. » En lisant ces quelques mots, M. Geozeller se crut d'abord victime d'un mauvais plaisant. Mais une courte réflexion le convainquit qu'il ne risquait rien à suivre l'avis de son correspondant anonyme. Il ordonna donc d'amener le mystérieux chinois dans son cabinet. « Ah, Mao, lui dit-il brusquement, nous savons tout. Nous avons fait enlever votre baignoire. Inutile de feindre plus longtemps. » Certes, M. Geozeller, dans ses plus optimistes espérances, ne pensait pas parvenir à un pareil résultat. Au nom d'Amao, le chinois avait scié légèrement. Mais, lorsqu'il s'entendit affirmer que sa baignoire avait été enlevée, il ouvrit la bouche, sans doute pour proférer une imprécation de rage. Il se contint, pourtant, mais sa face camuse exprima, malgré tous ses efforts, une épouvantable déception. « Si je puis vous donner un conseil, c'est d'avouer, » lui jeta le magistrat qui triomphait. « Je n'ai rien à avouer, » dit Amao. « Du moins, expliquez votre présence à côté du cadavre de Hong Tien. Je ne demande pas mieux que d'accueillir vos explications et vous voir vous innocenter. » Amao tressaillit. Il jeta sur le juge un regard stupéfait, se bandit les lèvres et resta muet. « Allons parler, » l'encouragea M. Geozeller. Amao resta muet. « D'où vient cette baignoire ? Nous finirons bien par le savoir, puisque nous avons déjà réussi à la trouver, » affirma le magistrat en parlant au hasard. Le céleste grinça des dents. Il hésita quelques secondes et enfin murmura ces étranges paroles. « Le traître mourra. Faux est un traître qui meurt. Allez aux Mille Hôtels, de la 37e rue. Vous trouverez ce que vous cherchez. Quoi, qui ? Expliquez-vous. Allez aux Mille Hôtels, de la 37e rue et à des Clifden, vous le saurez. Expliquez-vous, voyons, c'est votre intérêt. Je n'ai rien d'autre à dire. » Force fut à M. Geozeller de se contenter de ces révélations. Malgré tous ses efforts, Amao ne prononça plus un seul mot. Le magistrat, après l'avoir fait ramener dans sa cellule, lança aussitôt un mandat d'amener contre le mystérieux Clifden, demeurant aux Mille Hôtels, haute populaire, de la 37e rue. Clifden était absent lorsque les policiers arrivèrent à l'hôtel. Ils l'attendirent. Il arriva seulement vers 11 heures du soir pour se coucher et, naturellement, fut aussitôt appréhendé. Il voulut se débattre, mais en vain. Poussé dans une voiture malgré ses cris et ses protestations, on le conduisit à la prison. Le lendemain matin, dès son arrivée à son cabinet, M. Geozeller apprit l'arrestation et l'incarcération de Clifden. Il ordonna de les faire aussitôt comparaître devant lui, espérant, en les confrontant, obtenir quelques éclaircissements. Seul Clifden put cependant être amené dans le cabinet du juge, et M. Geozeller, stupéfait, reconnut en lui Dimitri Fomitch, ou plutôt André Tourki. Quant au mystérieux Amao, il s'était, pendant la nuit, étranglé avec sa natte. La mort du chinois Amao enlevait à M. Geozeller son principal espoir de savoir la vérité. Cependant, après un premier sentiment de découragement, le juge résolut d'essayer quand même d'obtenir un résultat. « Asseyez-vous, André Tourki, » ordonna-t-il au pseudo-ingénieur. En entendant son véritable nom, le faux Dimitri Fomitch, au lieu de s'asseoir, faillit tomber à la renverse. « Assez de mensonges !» lui intima rudement le juge, sans lui laisser le temps de se remettre. « Je sais tout. Vous méritez 20 fois la chaise électrique. Vous me comprenez, hein ? Avouez vos crimes, c'est le seul espoir qui vous reste d'attendrir vos juges. Je suis innocent. C'est pour cela que vous êtes donné à moi comme vous nommant Dimitri Fomitch, que vous logez sous le nom de Clifden. J'ai des ennemis. Si j'avais quoi que ce fût sur la conscience, je ne serais pas venu me plaindre, » fit l'inculpé qui peu à peu reprenait son assurance. « Si j'ai pris de faux noms, c'est pour dépister ceux qui en veulent à mes biens. Ils l'ont prouvé, et à ma vie. » L'explication somme toute était plausible. Mais le magistrat ne s'y laissa pas prendre. « Vous êtes très fort, André Tourki. Mais tout cela ne m'explique pas vos relations avec Amao, le chinois qui était trouvé ligoté à côté du cadavre de Hong Tien, le patron du Lotus Bleu. Je ne connais pas ce chinois, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Mais Amao vous connaît puisque c'est lui qui nous a donné votre adresse. Oh, le misérable !» s'écria André Tourki sans penser que ceci était un aveu. « Répondez, quelles sont vos relations avec Amao ? « Expliquez-vous sur vos relations avec Ivan Moreuil, le forçat évadé de Sakhaline. » Comme on le voit, M. Geozeller se servait avec à propos des révélations de Vladimir Tripov. André Tourqui était devenu blême. « Allons, répondez !» insista le magistrat. « Je n'ai rien à dire. Je suis innocent. Je vous défie de prouver quoi que ce soit contre moi. Je vais vous confronter avec Amao, comme vous voudrez. » M. Geozeller ne répondit pas à cette bravade. Sa menace était vaine, puisque Amao était mort. Il pensa soudain à Vladimir Tripov, et d'un geste, fit approcher le greffier et lui ordonna d'envoyer chercher le policier russe. En attendant, il continua l'interrogatoire d'André Tourqui. Mais à toutes ces questions, l'inculpé opposa soit des dénégations, soit un mutisme farouche. Enfin, la porte s'ouvrit sur Vladimir Tripov. À sa vue, André Tourqui fit un tel saut en arrière qu'il serait tombé si le gardien qu'il surveillait ne l'eût soutenu. « Salut, André Tourqui !» goya le policier. « Tu ne t'attendais pas à me voir, hein ?»« Ah, monsieur le juge, que je suis content !»« Ce sac à gibier m'avait filé entre les doigts. Décidément, vous êtes très fort en Amérique. Du diable si j'ai... Du diable si j'espérais le revoir. Voici l'acte d'extradition, en règle, continua-t-il, en tendant au magistrat une liasse de papier orné de sceaux et de cachets multicolores. Rien ne manque. Pour l'inculpé, aucun doute. Je le reconnais formellement. Vous pouvez d'ailleurs voir son portrait et son signalement collé sur la copie du jugement de la cour de Nikolaïevsk qui le condamne à recevoir 500 coups de knout et aux travaux forcés. Ah, ah, ah. André Tourqui, m'as-tu fait assez courir? Mais nous partons demain, et j'irai te voir mourir sous le knout. 500 coups, sais-tu, ma colombe? On n'en réchappe jamais. Jamais, entends-tu? André Tourqui ne répondit pas. Il paraissait en proie à une sombre méditation. Tout est en règle, dit M. Geozeller au policier. J'espère pouvoir vous livrer l'inculpé demain, à moins d'un événement improbable. J'ai de fortes raisons de supposer que cet homme a trempé dans l'assassinat du Chinois du Lotus Bleu. Mais faute de preuves, il me faut, pour l'instant, le relâcher du fait de ce crime. « Il y a un navire après-demain, » dit Vladimir Tripov. « Pourvu que nous puissions le prendre, c'est le principal. Du reste, » ajouta-t-il avec un gros rire, « on ne meurt qu'une fois et je crois bien que ce digne André Tourqui a suffisamment expié pour qu'on ne lui ajoute rien. 500 coups de knout, ah, à 400, il sera mort. » André Tourqui releva la tête. « Retourner en Sibérie? Jamais !» glapa-t-il. « Je connais la loi. Avant d'être extradé, il faudrait que je subisse ma condamnation ici. Monsieur le juge, écoutez-moi. Oui, c'est vrai. J'ai trempé dans l'affaire du Lotus Bleu. C'est une vieille histoire. Mais quoi, maintenant, cela m'est bien égal de tout dire. Apprenez que le vieil Ungtien, malgré son apparence d'honnêteté, était un fief et coquin. Grâce à sa réputation, qui faisait que jamais la police ne le soupçonna ni ne perquisitionna chez lui, il abritait et cachait les principaux bandits de Chinatown, et parmi ceux-là, l'association des braves invisibles dont Amao était le chef. Mais commençons par le commencement. Il y a quelques mois, je me trouvais à... dans les monts Oural. Mais au fait, l'endroit vous intéresse peu. Donc, si, si, affirma Geozeller. Ça m'est bien égal, dit insolemment le prisonnier, qui insensiblement s'exaltait. Enfin, j'étais employé comme ingénieur dans une mine de platine. Du platine, vous comprenez? Un métal qui vaut deux fois plus cher que l'or. Nous le savons, dit le magistrat. Tant mieux. Eh bien nous, qui peignions pire que des nègres, on était mal nourris, mal logés, payés seulement lorsque le prince... Quel prince? Ça ne vous regarde pas. Mettez que ce soit le prince Dimitri Fomitch, cet aristocrate de malheur, qui a plus de 100 000 roubles à manger par jour. Oui, nous faisait mener une vie d'enfer. Et impossible de quitter ce bagne. Il n'y avait pas de voie ferrée à 300 km à la ronde, et nous étions surveillés par ces moujiks que Dieu donne. Ça n'empêche pas qu'on a réussi à s'enfuir, moi, Ivan. « Ivan Bourtef ?» interrompit Vladimir Tripov. André Tourqui haussa les épaules. « Si vous voulez, » murmura-t-il. « On s'enfuit donc et... Vous allez de vous cacher dans le Caucase, ou vous ?»« Où on se débrouilla, Vladimir Tripov. Heureusement qu'on avait gardé des intelligences dans la mine de platine, vous comprenez ?» Alors, comme la police commençait à nous talonner et qu'un de nos amis nous annonçait que l'on venait d'expédier 3 colis refermant chacun 100 livres de platine à la direction des arsenaux japonais, nous partîmes pour Yokohama afin de nous emparer de ce précieux métal. On en avait assez extrait du sol pour en garder un peu pour nous. À Yokohama, ce brave Ivan, qui parlait plutôt, très bien le japonais et le chinois, s'aboucha avec les affiliés d'une société secrète. Oh, je peux aussi bien tout vous dire. une société appelée les Braves Invisibles. Moyennant une part dans les bénéfices, une vingtaine de braves assaillirent la voiture qui transportait du paquebot au bureau de l'Arsenal les 300 livres de platine. Ce fut vite fait. Dans une ruelle proche, une automobile attendait. Les trois cassettes y furent aussitôt jetées. L'automobile fila. Je me trouvais dedans, avec Yvan. 100 livres de platine, ce n'est pas gros. Nous eûmes vite fait de sortir les lingots des cassettes, de jeter les débris de ces dernières dans un terrain vague et de nous embarquer le jour même à bord d'un paquebot américain allant à Frisco où devait se faire le partage. Vous commencez à comprendre. Le chef des braves invisibles de Yokohama, c'était Amao. Il nous conduisit chez le receleur de la bande à Frisco, c'est-à-dire chez l'estimable Hun Sien, le propriétaire du restaurant du Lotus Bleu. Nous partageâmes le butin. Mais, par prudence, au cas où la police se fût doutée de quelque chose, nous décidâmes de garder le platine pendant quelque temps avant de le vendre. Pour mieux le dissimuler, nous le fîmes fondre par un plombier chinois nommé Lam Kun, qui en confectionna divers objets. Hun Sien reçut un boudin et 3 barreaux de soupirail. Amao eut une baignoire, et moi et Yvan nous ne partageâmes de candélabres. On fut les plus mal servis, quoi. Nous qui avions manigancé toute l'affaire, on était roulés par ces Chinois de malheur. Yvan prétendit que c'était par ma faute, moi par la sienne, on se cogna. Et si malheureusement, que le pauvre Yvan en mourut. Je l'ai bien regretté. Et vous héritâtes des 2 candélabres, fit M. Géozeller. Naturellement. Je pensais que c'était un avertissement du ciel qui m'indiquait ainsi que tout le produit de l'affaire devait me revenir. Je pris donc mes mesures pour débarrasser Hun Sien de son bouddha et de ses barreaux de platine. Il eût été injuste que ce Chinois qui n'avait rien fait profitât de nos travaux. J'avais tout préparé lorsque les journaux m'apprirent la mort du patron du Lotus Bleu, l'arrestation d'un Chinois en lequel, d'après les portraits publiés par les journaux, je reconnus Amao et la disparition du bouddha et des 3 barreaux de platine. Tout ça, c'est du chiquet, pensais-je. Amao se sera ligoté lui-même pour ne pas être soupçonné. Et je résolus, dès que Amao sera mis en liberté, de m'expliquer avec lui. Mais voilà que quelques jours plus tard, je m'aperçus qu'on m'avait volé mes candélabres. Avouez, monsieur le juge, que c'était trop fort. Je n'hésitais pas, je portais plainte, afin de faire réfléchir à Amao, ou du moins ceux qui avaient agi à son instigation, puisqu'il était le seul à savoir que je possédais les candélabres. Aux 1000 hôtels où j'allais loger, j'attendis en vain que l'on me rapportât mon bien. C'est alors que, désespéré, je voulus punir Amao de sa félonie et vous écrivis une lettre, monsieur le juge, vous dévoilant le nom d'Amao et vous priant, ceci dans le but de me rappeler à lui, de lui dire que sa baignoire avait été enlevée, ce qui, hélas, n'est pas vrai. J'eus tort. Il ne faut jamais se laisser entraîner par la colère. Pour se venger, Amao me vendit, car c'est lui, ce ne peut être que lui, qui vous a révélé où je me réfugiais. Là-dessus, Vladimir Tripov est arrivé. Décidément, je n'ai pas de chance en cette affaire. J'ai dit la vérité. Quant à avoir trempé dans le meurtre de Hun Sien, je suis innocent. Vous pouvez me confronter avec Amao. Il s'est pendu, fit simplement M. Géozeller. Ah, malédiction, gronda le Russe. Mais tout ceci ne nous dit pas ce qu'est devenu le platine volé, interrogea le magistrat. D'abord, je n'en sais rien. Et je saurai que je ne vous le dirai pas, répondit André Tourqui. La confession d'André Tourqui produisit l'effet qu'on devine sur M. Géozeller. Elle expliquait tout, sans rien expliquer. En effet, le magistrat, s'il connaissait maintenant le mobile du crime, ignorait qu'ils étaient le principal auteur et le bénéficiaire. Ce ne pouvait être Amao. Pourquoi se serait-il ligoté auprès de sa victime en ce cas? De plus, le vol des candélabres de platine appartenant à André Tourqui avait été commis alors que le mystérieux Chinois était déjà emprisonné. « Qui croyez-vous l'assassin de Hun Sien ?» dit enfin M. Géozeller, dès qu'il fut un peu remis de la stupeur que lui avait causé le récit d'André Tourqui. « C'est Amao, ou un de ses amis ?» affirma le Russe. « Qui, un de ses amis ? Je n'en sais rien. » grogna André Tourqui en haussant les épaules. « Vous n'en savez rien ? J'incline plutôt à croire que vous avez participé à l'assassinat. C'est pourquoi vous n'osez nommer vos ou votre complice, de peur qu'il ne vous dénonce, lança le magistrat. « Mauvais système de défense et que le jury n'admettra pas, je vous en avertis. En attendant, je vous inculpe d'assassinat sur la personne Hun Sien, de vol et de recel d'objets volés, ainsi qu'il résulte de vos aveux. » André Tourqui, sombre, haussa les épaules. Si j'étais le complice d'Amao, je n'aurais pas demandé d'être confronté avec lui, dit-il. Amao s'est pendu parce qu'il est le coupable, lui et ses braves invisibles. Ah là là, si jamais on m'y reprend à travailler avec des Shintok. Yvan avait bien raison de me conseiller de me méfier. Je crois, André Turki, que vous ne travaillerez plus qu'avec le bourreau. L'inculpé ne répondit pas. Et alors, fit Vladimir Tripov, qui avait assisté sans dire un mot à tout ce dialogue, je suppose que mon mandat devient sans objet. J'en ai bien peur, le renseigna Géozeller. Nous ne pourrons laisser extrader l'inculpé que lorsqu'il aura purgé la peine encourue par les délits et crimes commis par lui sur le territoire de l'Union. Et il est à supposer que cette peine soit la mort. Le policier russe s'inclina. Je te verrai électrocuté, André Turki, dit-il. Ce sera toujours une consolation. Ça, vous vous trompez. Les exécutions ne sont pas publiques ici, murmura M. Géozeller. Vladimir Tripov sourit. Tant pis. Enfin, mon mandat étant désormais sans objet. J'ai l'honneur de vous saluer, monsieur le juge. Je ne partirai que dans quelques jours et d'ici là, je me tiens naturellement à la disposition de la justice. Cependant, s'il m'est permis de vous donner un conseil, monsieur le juge, c'est d'interroger encore André Turki. Peut-être que, hors de ma présence, il sera plus loquace. Je sens que je l'intimide. Monsieur Géozeller, de la tête, fit un signe affirmatif. Sans insister, le policier russe, après avoir lancé un regard ironique à André Turki, sortit. Dès que la porte se fut refermée sur lui, M. Géozeller voulut reprendre l'interrogatoire de l'inculpé. Ses tentatives, qui durèrent plus de 2 heures, furent inutiles. André Turki, visiblement, était buté. Il persista à affirmer son innocence et à accuser Amao de l'assassinat de Hung Tien, sans vouloir ou pouvoir donner d'autres indications. À bout d'arguments, le magistrat lui donna ordre de ramener l'inculpé dans sa cellule lorsque la sonnerie de l'appareil téléphonique crépita. « Allô ?» maugréa le magistrat, énervé. Tout aussitôt, il pâlit un peu. C'était James Molescott, chef de la sûreté de San Francisco, qui téléphonait. « Allô, monsieur le juge » disait-il. « J'apprends un bizarre cambriolage. »« Peut-être ne vous intéresse-t-il pas ?» Mais comme il a pour théâtre Chinatown, il se pourrait qu'il eût des liens avec l'affaire du Lotus Bleu. Sait-on jamais? Enfin, on vient de découvrir à l'instant qu'un plombier chinois nommé Lam Kun vient d'être cambriolé en plein jour et avec une audace et une astuce déconcertante. Lam Kun? Halta M. Géozeller. Attendez, dis donc, André Turki, c'est bien Lam Kun que se nomme le plombier chinois qui avait fondu le platine? Oui, monsieur le juge, mais pourquoi? C'est moi qui interroge ici, ne l'oubliez pas. Allô? Monsieur Molescott? Oui, continuez, je vous prie. Eh bien, figurez-vous que 2 hommes, que nul ne connaît, vêtus en ouvrier, se sont présentés tout à l'heure chez Lam Kun. Ils entrèrent dans la boutique du plombier, qui est étroite et profonde, et d'après les témoins, en sortirent 10 minutes plus tard avec 3 paquets recouverts de toile. Ils chargèrent le tout sur leur charrette et disparurent avec le véhicule. Quelques instants après, un client chinois étant entré, et ayant appelé vainement Lam Kun, fut pris de soupçons et examina la boutique. Il découvrit ainsi l'infortuné plombier bâillonné et ligoté qu'une vieille bâche dissimulait dans un coin sombre. Il le délivra et l'invita à prévenir la police. Mais le dit Lam Kun, comme frappé de folie, se roula sur le sol en poussant des cris furieux. Le chinois qui avait découvert le plombier n'insista pas et s'en fut mettre le détective Hornsby au courant. Ce dernier vient de me téléphoner les résultats de sa première enquête. Vous les savez? Vous les savez. Qu'en pensez-vous? Beaucoup. Arrêtez de suite, Lam Kun. C'est le receleur des objets volés à Hung Tien, le restaurateur du Lotus Bleu, et probablement un de ses assassins. Faites vite, il n'y a pas de temps à perdre. Vous m'avez compris? Oui. Arrêtez, Lam Kun. Entendu, monsieur Zeller. Le magistrat raccrocha le récepteur. Il était à la fois ému et joyeux. Enfin, il allait connaître le mot de l'énigme. Vous avez compris? Dit-il brusquement à André Turki. Votre receleur, le plombier Lam Kun, va être arrêté. « Oh, je ne demande pas mieux, moi. Que voulez-vous que cela me fasse ? Il était sûrement de mèche avec un Mao. Tous ces Shintok, cette canaille et compagnie. » Provenant de la bouche d'André Turki, cette appréciation ne manquait pas de sel. M. Géozeller, se réservant de reprendre plus tard l'interrogatoire d'André Turki, le fit ramener dans sa cellule. Bien que l'heure du déjeuner fût proche, le magistrat ne voulait pas quitter son cabinet avant d'avoir appris l'arrestation de Lam Kun. Il téléphona donc à James Molescott, pour avoir des nouvelles du mystérieux plombier chinois. « Rien encore, répondit le chef de la sûreté de San Francisco. « Je vous téléphonerai dès que je saurai quelque chose. » Dépité, M. Géo Zeller remercia, et malgré son impatience, s'en fut déjeuner. Il mangea sans appétit, et son repas achevé, regagna en hâte son cabinet. Tout aussitôt, il demanda la communication téléphonique avec M. James Molescott. Le chef de la sûreté était absent. Énervé de ce contretemps, le magistrat alluma un cigare pour s'occuper. Cette affaire du lotus bleu, décidément, l'intéressait par son étrangeté. Il n'attendit d'ailleurs que quelques minutes. Averti par la sonnerie, il saisit les récepteurs et les colla à ses oreilles. « Allô, M. Molescott ?»« Oui. Je vous téléphone du poste de la 8e avenue, je... » Lamkoun est arrêté. « Non, il a disparu. Disparu !»« Mais j'avais bien donné l'ordre de l'arrêter dès que vous me l'aviez dit. Trop tard. » Le plombier, après être resté quelques minutes à se rouler comme un possédé, a quitté sa bicoque. Où est-il allé ? Impossible de le savoir. J'ai fait fouiller toutes les maisons environnantes et la sienne aussi. J'ai interrogé les voisins. Pour rien, vous comprenez ? En bon chinois, ceux-ci nient avoir vu Lamkoun. En tout cas, je viens de donner l'ordre à l'inspecteur Murchison et à 12 détectives de fouiller tout Chinatown. Je vais surveiller le port. Il faudra bien que ce Lamkoun se retrouve. M. Géo Zeller était découragé. « Oui, » murmura-t-il d'une voix lasse. « Oui, enfin, faites pour le mieux, M. Molescott. Comptez sur moi, je vais moi-même diriger la recherche, » répondit le chef de la sûreté de San Francisco. M. Géo Zeller raccrocha le récepteur. Son découragement était immense. Une fois de plus, la vérité lui échappait au moment où il croyait la tenir. Mais il n'était pas au bout de ses étonnements. Le lendemain, il venait à peine d'arriver dans son cabinet, lorsqu'un bruit de voix furieuse parvint jusqu'à lui, malgré le matelas de cuir embourrant la porte de son cabinet. M. Géo Zeller aimait le calme et le silence, comme homme et comme magistrat. De plus, l'état d'énervement dans lequel l'avaient plongé les effarantes péripéties de l'affaire du lotus bleu n'était pas pour le rendre patient. Il se dressa, d'une saccade, de son fauteuil, bouscula le greffier qui lui aussi voulait voir ce qui se passait, et ouvrit la porte. Dans le couloir, entre deux détectives en uniforme qui s'efforçaient de le maintenir, un colosse à barbe noire, les vêtements en lambeaux, tête nue, les cheveux hirsutes se débattaient comme un beau diable tout en hurlant d'une voix rauque des imprécations furieuses. « Qu'y a-t-il ? » s'écria M. Géo Zeller, les sourcils froncés. « Qu'est-ce que ce tapage ?»« C'est un vagabond, » répondit un des deux détectives. « Il s'est introduit ici, nous ne savons comment. Il veut... « Oui, oui !» hurla l'énergumène en mauvais anglais. « Je veux voir le juge Zeller. Je veux voir le juge Zeller. Je suis Vladimir Tripov. Vladimir Tripov !» En entendant ce nom, M. Géo Zeller tressaillit et sans répondre s'approcha, car il ne lui semblait pas reconnaître la voix du policier russe. Sa stupeur fut immense. L'homme qui se débattait en criant qu'il était Vladimir Tripov n'était pas celui avec lequel il était en relation. Quel était ce nouveau mystère ? « Je suis le juge Géo Zeller, » dit-il furieux. « Calmez-vous. Vous autres, » s'adressa-t-il au détective, « ne brutalisez pas ce gentleman. »« Vous, vous êtes le juge Zeller ?» octa l'homme. « Oui, comme voulez-vous. »« Faites-moi lâcher. C'est abominable, abominable. Je suis Vladimir Tripov, Vladimir Tripov. Je suis un homme honorable, moi. Qu'on aille prévenir le consul de Russie. Le consul de Russie, il me connaît. » M. Géo Zeller pressentit qu'il avait devant lui la clé du mystère. « Que me voulez-vous, M. Tripov ? » questionna-t-il. « D'abord, faites-moi lâcher. Je porte plainte. Je porte plainte. Depuis 8 jours, j'étais séquestré. Faites-moi lâcher. » M. Géo Zeller ne répondit pas. Il se demandait s'il n'avait pas affaire à un fou, tant les paroles de l'inconnu, qui gesticulait toujours malgré les efforts des deux détectives, étaient incohérentes. « Passez-lui les menottes. » commanda-t-il enfin aux deux policiers, et amenez-le dans mon cabinet. Il fut obéi. L'énergumène, sans doute un peu calmé, ou comprenant que c'était son seul espoir d'être entendu, se laissa passer les menottes et poussa dans le cabinet de travail du magistrat. « Qu'avez-vous à me dire, monsieur ? » commença-t-il. « Ce que j'ai ? Ah ! Je suis Vladimir Tripov, monsieur. Vladimir Tripov, officier de police de Sa Majesté Nicolas II. Avez-vous des papiers prouvant vos dires ? « Des papiers ? On me les a volés, monsieur, volés. Mais vous n'avez qu'à prier le consul de Russie de venir ici. Il me reconnaîtra, lui. Nous verrons. Mais qui vous a volé ?»« Je n'en sais rien. Je suis arrivé de Russie il y a quelques jours. sur le port près de Cliff House, où j'allais me promener le soir même de mon arrivée, je fus accosté par deux gentlemen, qui, avant que j'aie pu comprendre leurs intentions, me rabattirent sur la tête une sorte de capuchon, m'assommèrent à demi et me transportèrent je ne sais où, dans une cabane en planches, je crois, enfin, pas loin de Cliff House. Je restai là je ne sais combien de temps, car ma prison, qui devait être souterraine, ne voyait jamais le soleil. De temps en temps, un nègre m'apportait à manger. Oh, une nourriture succulente, du caviar, du poulet, des prunes. Mais c'est en vain que je cherchais à l'interroger. Il ne répondit pas. Enfin, je m'endormis, il y a de cela quelques heures. Hier soir, sans doute. Et je me réveillai ce matin à l'aube dans un creux de rocher, près de la plage d'une petite ville pas loin d'ici, qui s'appelle, je crois, San Diego. Comme mes poches étaient complètement vides, je m'informai de la distance à laquelle je me trouvais de San Francisco, et ayant appris qu'elle n'était pas grande, je me rendis ici à pied. J'allai tout droit au palais de justice, où je demandai à parler au juge pour déposer une plainte. On me conduisit au greffe, où je me nommai. On me traita d'imposteur. Moi, on me déclara que je n'étais pas Vladimir Tripov, que Vladimir Tripov était connu, et que ce n'était pas moi, et que M. le juge Géozeller avait le matin même entendu le vrai Vladimir Tripov. Je me récriai. Je demandai à être mis en présence de vous. Deux détectives voulurent m'expulser du palais. Je leur échappai. Ils me rejoignirent au moment où j'arrivais devant la porte de votre cabinet. Voilà mon histoire. M. Géozeller ne répondit pas. Avant toute autre chose, il voulut se renseigner sur l'identité de ce deuxième Vladimir Tripov, et après l'avoir invité à se reposer, il téléphona au consulat de Russie afin que quelqu'un vînt identifier le prisonnier. Moins d'une demi-heure plus tard, le consul de Russie en personne pénétrait dans le cabinet du magistrat et reconnaissait formellement Vladimir Tripov. Mais, dans ce cas, le premier Tripov était un imposteur. Que voulait dire ce nouveau mystère ? Depuis le commencement de cette maudite affaire du Lotus Bleu, M. Géozeller n'en était plus à contrer les mystères. Après avoir fait débarrasser le vrai Vladimir Tripov de ses menottes et lui avoir présenté ses excuses, il l'interrogea minutieusement sur l'agression dont il avait été l'objet. Bien que n'oubliant pas les moindres détails, le policier russe ne put fournir le plus petit renseignement sur ceux qu'il avait séquestrés. Il avoua n'avoir pas eu le temps de voir leurs visages et être impuissant à les reconnaître. Évidemment, le faux Tripov était un complice d'André Tourki, ou plutôt un des complices, sinon l'auteur du crime de Chinatown. Oui, mais où était-il passé? Après 2 mois de recherche sans résultat, M. Géozeller se le demandait. Il se le demanderait encore si, la veille du jour fixé par la justice pour la comparution d'André Tourki devant la cour d'assises pour l'assassinat de Hongtsien, la police n'ayant pas réussi à trouver les autres criminels, et tout démontrant qu'elle n'y parviendrait jamais, il avait bien fallu en finir. M. Géozeller n'avait reçu, la veille du procès, la lettre qui suit. Il aurait bien voulu en garder le contenu secret. Mais, ainsi qu'on va le voir, le signataire avait pris ses précautions pour éviter que le magistrat ne fût trop discret. Cette lettre, que les journaux de San Francisco devaient publier le lendemain, était courte mais éloquente. Monsieur le juge, comme il m'est pénible de laisser comparaître devant le jury un, comment dirais-je, mettons, demi-innocent, je me vois obligé, malgré mon habituelle discrétion, d'éclairer la lanterne de la justice, laquelle apparaît fort obscurcie. André Tourki est innocent de la mort de Hongtsien, sachez-le. Le propriétaire du Lotus Bleu fut assassiné par Amao. Malheureusement pour lui, ce dernier, lorsqu'il commit son crime, ou plutôt lorsqu'il décella les soupiraux de la cave du restaurant, fit quelques bruits. Je me trouvais dans le quartier et m'acheminais précisément vers le Lotus Bleu, que je croyais trouver ouvert, et où je comptais me restaurer, car j'étais assez affamé par suite d'un travail qui... Mais ne nous égarons pas. En arrivant devant le Lotus Bleu, je m'aperçus que j'arrivais trop tard. J'allais rebrousser chemin, assez mécontent, lorsque j'entendis un vacarme produit par des coups de marteau. Comme l'heure n'était pas de travailler, et que pour faire plus vite, sans doute, le dénommé Amao avait laissé entr'ouverte la porte du Lotus Bleu, j'entrai. Et j'arrivais juste à temps pour me heurter à l'assassin qui, sa besogne faite, s'en allait avec le Bouddha et les barreaux de gris. Je le terrassai par un coup de jiu-jitsu qu'il étendit sur le sol sans connaissance, et lorsqu'il revint à lui, il était ligoté. Son butin m'intrigua. Un Bouddha passa encore, mais 3 barreaux de métal. J'interrogeai mon bonhomme. D'abord, il ne voulut rien dire. Je le menaçai de lui couper sa natte, châtiment terrible pour un Chinois croyant. Enfin, après de nombreux mensonges que je démasquais sans peine, il m'avoua que le Bouddha et les barreaux de gris, malgré les apparences, valaient fort cher, étant faits de platine. Je dressai l'oreille, mon Chinois était lancé. Mu sans doute par le désir de n'être pas le seul volé, il m'apprit qu'un certain Dimitri Fomitch, demeurant à l'hôtel Windsor, possédait une paire de candélabres de modeste apparence, mais également en platine. Le reste m'intéressait peu. Je laissai donc le dénommé Amao, en qui j'avais reconnu un des chefs de la bande des Braves Invisibles, en tête à tête avec l'homme qu'il venait d'assassiner, et portai mon butin en lieu sûr. Et, quelques jours plus tard, ayant pris mes renseignements, je m'emparai, avec une facilité dérisoire, je dois le dire, des candélabres du pseudo Dimitri Fomitch. Naturellement, je visitai en même temps son portefeuille. Son contenu m'intéressa. J'appris en examinant les papiers qui s'y trouvaient que le prétendu Dimitri Fomitch se nommait en réalité André Tourki. Ce détail me laissa indifférent. Je n'y aurais plus songé si, quelques jours plus tard, je n'avais appris par un ami de Russie l'arrivée prochaine à Frisco d'un certain policier nommé Vladimir Tripov, chargé de ramener en Russie un assassin nommé André Tourki. « C'est mon homme au candélabre, » pensais-je. Après quoi, je songeais à autre chose, notamment à réaliser le produit, s'il me permit de parler ainsi, de mon affaire. C'est alors que je m'aperçus avec dépit, je l'avoue, que les barreaux de gris, le Bouddha et les candélabres étaient tout bonnement en plomb. En plomb? Il n'y en avait pas pour un dollar. Et voilà pourquoi je m'étais donné tant de peine. Cependant, je résolus de savoir la vérité, et aussi de connaître comment, en un plomb-ville, le platine s'était changé. Je pensais qu'Amao, qui, pour s'emparer de ce platine, n'avait pas hésité à l'assassiner, devait en connaître la provenance. Mais pour l'interroger, il me fallait arriver jusqu'à lui. C'était difficile. Je résolus en attendant d'avoir un entretien à ce sujet avec Dimitri Fomitch. Mais il avait quitté le Windsor, la guigne, enfin. Mais la chance eut son tour, car je lus sur un journal que le Manchuria, courrier de Chine, arrivait le lendemain. Or, je savais que Vladimir Tripov était à bord. Dès que ce policier eut débarqué, je le filai, et le soir même, aidé d'un ami, je m'emparai de lui et l'enfermai dans la cale de mon yacht ancré en rade d'Auckland. Après quoi, ayant en poche des papiers de Vladimir Tripov, m'étant fait sa tête, j'allai vous rendre visite. Grâce aux papiers trouvés par moi dans les poches de Tripov, je pus sans difficulté jouer mon rôle à merveille. Mais cela ne m'avança guère. Je n'appris rien d'intéressant, étant donné que vous ne savez rien vous-même. Heureusement qu'Amao se décida enfin à parler et qu'André Tourki fut arrêté. Je pus constater combien mon déguisement était frappant de ressemblance devant le bond que fit André Tourki en me voyant. Mais arrivons au fait. La suite, vous la savez. Ne pouvant faire parler Amao qui s'était étranglé, je réussis à rendre André Tourki loquace en lui annonçant son imminente extradition. Plutôt que d'être ramené en Russie où l'attendait un effroyable châtiment, André Tourki préféra tout avouer. Il nous apprit l'origine du platine, son partage, enfin tout ce que vous savez. Mais pour moi qui savais que les barreaux, le Bouddha et les candélabres, et la baignoire d'Amao aussi sans doute, étaient en plomb, l'histoire apparaissait encore plus compliquée. Je ne perdis pas mon temps. Après vous avoir remercié, combien ironiquement, je résolus de terminer l'affaire. Sans être bien malin, il était facile de deviner que l'inestimable plombier Lam Kun, en honnête chinois, s'était tout simplement approprié le platine volé et avait fourni à ses complices des objets en plomb. Donc, une heure après avoir quitté le palais de justice, je me rendis chez ce déshonnête Lam Kun avec un ami. Nous étions déguisés en plombier et traînions une voiture. Il ne nous fallut pas 10 minutes pour ficeler Lam Kun, trouver dans sa cave 3 lingots de platine, du vrai platine celui-là, et partir avec notre butin. Que vous dire de plus? Sans doute n'avais-je pas assez serré les liens du dit Lam Kun, puisqu'il réussit peu après à s'enfuir. Le soir même, après avoir mélangé un soporifique aux aliments de Vladimir Tripov, toujours prisonnier à bord de mon yacht, je le fis porter, la nuit venue, parmi les rochers bordant la plage de San Diego, où il se réveilla le lendemain et vint vous conter ses impressions. John Strobbins, détective cambrioleur. Cette lettre produisit l'impression que l'on devine et permit à André Tourquet de bénéficier de la clémence du jury, 5 ans de hard labor. Grâce à quoi, Vladimir Tripov, le vrai, dut s'en retourner bredouille en Russie. M. Geozeller a depuis voué une haine à mort à John Strobbins, coupable à ses yeux de l'avoir ridiculisé. Ainsi s'achève Les Braves Invisibles, une aventure de John Strobbins par José Moselli.